Vous écoutez
RMC.
RMC Bourdin Direct.
Jean-Jacques Bourdin.
Professeur Gilles Pialot, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques.
Vous êtes infectiologue, vous êtes chef des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Tenon à Paris, mais vous êtes aussi vice-président de la Société française de lutte contre le sida. Et je reviendrai sur les traitements ARN et le sida. Les traitements contre le Covid, on va en parler aussi. Covid, faisons le point. Alors, où en est-on aujourd'hui, par exemple à Tenon? Où en êtes-vous? Les services de réanimation sont encore... plein de malades Covid, j'imagine, le service de réanimation.
Ouais, pas plein.
Enfin,
à Tenon, c'est simple, on est à
combien?
Sur 20 lits, on a 10 malades Covid.
Bon, la moitié.
Mais il y a deux facteurs qui nous inquiètent, c'est qu'effectivement le plateau n'est pas arrivé. Enfin,
oui.
On espère être un plateau ou une descente sur les réanimations, sur les soins intensifs. Et puis il y a aussi des rapatriements qui vont être dispatchés, notamment dans les hôpitaux parisiens, mais aussi dans le Grand Est.
Rapatriements
à la fois
des Entre-mer et de Marseille.
De Polynésie. Et de Marseille, comme vous le savez.
De Marseille.
Il y a une situation très inquiétante en PACA. Alors après, il y a peut-être multiples facteurs, mais la réanimation à Marseille est dans une pression autour de 90%. Et effectivement, on a déjà commencé les transferts, notamment, on a beaucoup médiatisé les transferts d'un jeune homme de 22 ans sans comorbidité, qui est parti à Strasbourg.
Qui est parti à Strasbourg. Vacciné ou non vacciné, ce jeune homme?
Alors, on a les mêmes chiffres à Tenon qu'à Marseille. C'est
oui.
89-90% de non-vaccinés. C'est une épidémie de non-vaccinés. Il faut le répéter. On est dans une épidémie particulière.
Cette épidémie est devenue une épidémie de non-vaccinés.
Cette épidémie et la circulation du virus, probablement aussi, on parlera, majoritairement, mais pas seulement chez les non-vaccinés, mais clairement à l'hôpital, la pression, elle est par les non-vaccinés.
Les
et puis là-dessus, si on peut
oui,
mettre un point sur les fake news, on n'a pas besoin d'études randomisées, vous savez, on tire au sort pour savoir s'il y a les régions ou les endroits qui sont vaccinés ont moins de pression sur l'hôpital. C'est une des grandes réussites de cette campagne vaccinale qui est arrivée effectivement à un niveau extrêmement intéressant pour l'hôpital, c'est de diminuer la pression sur l'hospitalisation, diminuer la pression sur la réanimation et diminuer la mortalité. Et quand vous comparez par exemple les Antilles, le taux de vaccination dans les Antilles et le taux en métropole, vous avez votre étude. C'est-à-dire que le taux de vaccination aux Antilles, on le connaît, il est autour de 24%, c'est-à-dire quand même presque plus de deux fois moins que la métropole, même s'il y a un peu plus de comorbidité. Donc on a une épidémie de non-vaccinés, il faut le répéter.
Oui, ce qui veut dire que les vaccins sont efficaces contre le variant Delta. Je vous dis ça parce qu'aux États-Unis, il y a, d'ailleurs, sur toutes les chaînes de télévision, on en parle ce matin, ou à la radio, 66% seulement de protection quand on a été vacciné, Pfizer ou Moderna.
Alors, ces chiffres sont difficiles à interpréter, parce que d'abord, je trouve qu'il y a un peu une surcommunication là-dessus, parce que l'objectif de ces vaccins, il faut le rappeler, ça a d'ailleurs été critiqué, c'est le design des essais de phase 3, là, les fameux essais de phase 3, c'était sur la pression d'hospitalisation, sur le passage aux formes graves et sur la mortalité. Et il se trouve qu'il y a une dissociation entre les taux d'anticorps qui peut effectivement baisser avec le temps, mais ça, il faut accepter les incertitudes. Par définition, on n'a pas le recul suffisant pour savoir quelle est la cinétique de décroissance des anticorps. Et je trouve que, effectivement, la position de la Haute Autorité de Santé a été traduite en une moindre efficacité vaccinale. Bien sûr que le Delta, il y a une moindre efficacité vaccinale. Bien sûr que les immunodéprimés, les sujets âgés qui vont avoir une troisième dose...
Je vais revenir sur les immunodéprimés.
...ont une réponse qui est moindre.
Oui.
Et bien sûr que la réponse baisse d'autant plus vite que vous êtes plus âgé.
Non, je vous dis ça parce que ça nourrit, évidemment, ça nourrit les antivax.
Bien sûr.
Ceux qui sont contre les vaccins.
Ben c'est pour ça qu'il faut regarder, et ça a été le ministre sur votre chaîne l'autre jour l'a très bien exprimé, il faut montrer que cette efficacité vaccinale, elle est extrêmement spectaculaire sur l'hospitalisation. Parce que cette vague-là, elle n'a aucune commune mesure. Hier, il y avait combien? 21 000 cas, 21 000 nouvelles contaminations.
Oui.
Et ben, ça ne se traduit pas par une pression hospitalière, comme on l'a vu dans toutes les vagues précédentes.
Grâce au vaccin.
Évidemment, grâce au vaccin. Mais ce n'est pas que le vaccin. C'est-à-dire, c'est une obsession que j'ai, c'est faire passer le message de la sécurité routière, c'est il faut conjuguer les éléments. Et quand on
d'ailleurs,
pourra conjuguer...
Vous portez votre masque,
exactement,
toujours.
Et je continuerai
ici, vous êtes l'un des rares à le porter.
Non, il y a Arnaud Fontané aussi.
Oui, il y a Arnaud Fontané aussi. Oui, c'est vrai.
Je continuerai à le porter pour deux raisons. La première, c'est que le vacciné peut être transmetteur.
Oui.
Il y a eu un message qui a été diffluent, y compris chez les experts. y compris chez les politiques.
Oui.
Le ministre de l'Éducation nationale a quand même exprimé au mois de juillet que quelqu'un qui était vacciné était non transmetteur, ce qui est inexact.
C'est faux. On peut transmettre le virus.
Vacciné, on est protégé contre la maladie, on est protégé contre les formes graves, on est protégé évidemment des décès.
Oui.
Mais ça n'annule pas complètement, surtout avec le variant Delta.
On peut transmettre, est-ce qu'on transmet plus ou moins?
Non, alors, plus c'est impossible, mais sauf qu'entre-temps... C'est impossible.
Est-ce qu'on transmet une charge virale plus importante lorsqu'on est vacciné?
Alors, là, les articles sont pas consensuels. Mais globalement, la charge virale diminue sous l'effet de la pression vaccinale. Et donc, effectivement, on est a priori moins transmetteur.
Oui.
Mais les gens ont entendu non transmetteur. Et ce n'est pas un élément qui a utilisé contre les vaccins. C'est un élément qui a utilisé pour la prévention combinée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas lâcher le masque, il ne faut pas lâcher les mesures barrières à cause de ce variant Delta hyper contagieux et à cause d'une circulation virale qui est très importante. On pourrait citer PACA, qui a des chiffres de circulation virale, en plus des Antilles, en plus de la Polynésie.
Oui, c'est vrai, la région Provence.
Même si ça n'a aucune commune mesure entre PACA et les Antilles.
Oui, professeur Gilles Pialou, je vais revenir sur les traitements, je vais revenir sur la rentrée scolaire, moment très important dans l'évolution de cette épidémie, mais je voudrais que nous parlions de cette fameuse troisième dose. Troisième dose, vous-même, vous allez vous faire vacciner une troisième fois.
Alors,
dans les jours qui viennent.
D'abord, il faut savoir que cette troisième dose, on l'a déjà commencé depuis longtemps.
Oui.
On vaccine les transplantés rénaux, on vaccine les gens sous chimiothérapie.
Les déprimés.
On est en train d'élargir le sec et c'est une très bonne nouvelle et c'est une très bonne décision qui a été prise. En plus, ils ont ratissé large puisque au début, le conseil scientifique avait dit peut-être les plus de 80 ans, etc. Il y a des pays qui ont fait plus de 80 ans. L'Allemagne a fait 65 ans.
Israël, c'est 30 ans, hein.
Oui. Alors chacun sait. Vous savez, s'il y avait qu'une solution par rapport à cette crise du variant Delta, ça serait là. En l'occurrence, c'est une demi-mesure très satisfaisante, moins de 65 ans. Et je remercie à titre personnel la Haute Autorité de Santé parce que moi, je vais avoir 65 ans dans quelques jours et évidemment, je vais avoir accès à cette troisième dose que je me ferai immédiatement.
Vous recommandez la troisième dose à tous les plus de 65 ans.
Ah ben je
non seulement vous dites,
porte la recommandation.
Portez la recommandation. Ça veut dire quoi
du ministre.
Ça veut dire que comme pour d'autres vaccins, nous chaque année ou je ne sais pas tous les six
alors
mois.
Chaque année c'est le temps qu'il dira.
Un rappel.
Pourquoi pas. C'est une possibilité non négligeable qu'on soit sur un modèle grippe pas de la maladie, modèle grippe de la vaccination, c'est-à-dire une adaptation annuelle. Personne ne fait de manifestation parce qu'il faut refaire le vaccin de la grippe différent. En plus, on n'est pas du tout dans le même niveau d'efficacité. Et puis, il faut rappeler qu'il y a plein de vaccins pour lesquels il y a plusieurs injections. L'hépatite B, ça a été longtemps 3 injections. Le vaccin contre le pneumocoque, c'est 2 vaccins ou 1 vaccin qu'il faut répéter tous les 3 ans. Donc, il faut revenir un peu dans la culture vaccinale. C'est le virus et c'est la réponse immunitaire qui dicte. Pour l'instant, on n'a pas le recul nécessaire pour savoir quand il faudra faire ces
pour les immunodéprimés, une quatrième dose bientôt. Peut-être.
Alors, les immunodéprimés, il faut savoir que là aussi, la Haute Autorité de Santé a autorisé, là, début août, l'utilisation des anticorps monoclonaux. Et ça, c'est aussi une très bonne nouvelle, parce qu'on ne parle pas assez des traitements. Mais là, c'est du traitement préventif, c'est-à-dire, en gros, pré- ou post-exposition. Soit quelqu'un qui a été contact, soit quelqu'un qui est très immunodéprimé, qui n'a pas de réponse à 3 doses, et qui peut avoir assez d'anticorps monoclonaux, et on est en train d'organiser ça à tenon.
Alors, nous allons revenir sur les traitements, justement, en parallèle des vaccins, des traitements qui sont en train d'être développés. La recherche est extrêmement active d'ailleurs sur les traitements, mais la rentrée scolaire, est-ce qu'elle vous inquiète? Sincèrement, vous êtes infectiologue. Oui, j'ai vu la tribune que vous avez signée.
On a signé une tribune le 19 août qui est très claire, je crois, talon d'Achille, voilà.
Talon d'Achille.
Il faut être clair, on a changé de paradigme pour le scolaire.
Mais soyons clairs, est-ce qu'elle est mal gérée
on l'a entendu
de l'éducation nationale.
Moi, ce que je regarde sur ce plan sanitaire, c'est que c'est à peu près le même plan sanitaire qu'en 2020, à quelques ajustements près, alors qu'on est en situation complètement différente. Vous avez plusieurs membres du conseil scientifique se sont exprimés et on attend avec impatience l'avis qu'ils ont donné au gouvernement dans la dernière semaine sur l'école. On est dans une possible épidémie scolaire, mais pas une épidémie de malades, une épidémie de circulation virale. Et évidemment, ça change complètement la donne.
Ça veut dire que le protocole sanitaire prévu n'est pas le bon. C'est un protocole. Soyons directs et soyons clairs.
Le protocole sanitaire, il évolue encore. Peut-être que dans 5 jours, on aura effectivement ce qu'on a réclamé dans la tribune, c'est-à-dire des capteurs de CO2, qu'on aura des purificateurs d'air, des jauges peut-être. Alors, j'ai appris qu'il n'y aurait pas de jauge dans les universités. Et puis, il y a un point qui est très, très important et qui a été réclamé notamment par plusieurs intervenants, c'est de ne pas lâcher le dépistage. Il faut qu'il y ait du dépistage en milieu scolaire. Le but n'est pas seulement de faire porter des masques, d'aérer, de faire éventuellement du tracing. Ça, c'est un point important. Le deuxième point important, c'est que je pense que c'est une erreur médicale, mais c'est une décision politique que je ne critique pas. C'est une erreur médicale de traiter différemment les vaccinés et les non-vaccinés. C'est-à-dire que vous l'avez bien vu, c'était un sujet contact qui est non-vacciné, il rentre chez lui. Un sujet contact qui est vacciné, il reste
à l'école.
Il reste à l'école. Pour moi, c'est une prise de risque.
Mais
c'est une prise de risque. Pour la raison qu'on a expliquée tout à l'heure, c'est que les vaccins, d'abord, c'est sur la foi des parents. Hein, et vous savez que les gens ont peur en ce moment. On prend un seul exemple de la peur. Vous savez combien de personnes, quand on fait le tracing, vous savez, d'appeler les gens pour savoir s'ils ont des sujets contacts. 50% des gens au mois de juillet disaient qu'ils n'avaient eu zéro contact. Mais qui a eu zéro contact? Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc ils ont manifestement, il y a le syndrome de donne pas mon nom, quoi. C'est-à-dire que le tracing se heurte à une inquiétude des gens d'être tracés. Et les parents seront inquiets aussi de déclarer le statut de leurs enfants.
Il y a un problème. Moins de 12 ans. Pour l'instant, pas de vaccin. On ne vaccine pas les moins de 12 ans. Vous le regrettez d'ailleurs.
Mais il faut que les choses, ça a été dit aussi par d'autres, il faut que les choses aillent avec le temps de la science.
Bon,
le temps de la science, c'est que les 5-11 ans, ça viendra. Mais ça ne viendra pas cette année. Parce qu'il faut des données et il faut un haut niveau de sécurité.
Et les plus de 12 ans, là vous dites, il faut.
Les plus de 12 ans, ça c'est une très bonne nouvelle, là, les plus de 12 ans.
Oui.
Le chiffre de 30%.
Forte progression.
30% de dos, c'est ça?
Oui, on en est
ça,
là.
Ça c'est une très bonne nouvelle. Je pense qu'il y a eu un effet, alors je ne sais pas si c'est l'effet TikTok, Instagram du président de la République, mais il y a eu un effet d'engouement pour cette vaccination et je pense qu'en plus, j'en ai dans mes enfants, les ados se prennent moins la tête, vous voyez ce que je veux dire?
Ils ne sont pas sur les
mêmes réseaux sociaux où il y a les fake news qui circulent, donc peut-être que c'est plus clair pour eux.
Gilles Pialou, il y a aussi le pass sanitaire. Ce que je ne comprends pas très bien, c'est le personnel qui intervient dans les établissements scolaires, que ce soit le personnel éducatif ou les autres personnels, rien pour eux. Si j'ai bien compris, pas d'obligation vaccinale, pas de passe sanitaire.
Il faut que vous invitiez M. Blanquer, moi je ne sais
pas. Je vais l'inviter, il est invité d'ailleurs, il peut venir.
Vous savez, sur les enseignants, ça avait été fait justement par l'Institut Pasteur.
Est-ce qu'il va falloir rendre obligatoire la vaccination pour tout le personnel qui entre dans l'établissement scolaire?
Je pense qu'on peut faire des étapes, comme d'ailleurs ça a été annoncé pour les policiers. Oui. C'est-à-dire que si vous avez un niveau de vaccination qui n'est pas suffisant, il faut que la vaccination soit obligatoire. Mais de toute façon, il faut un débat citoyen. Il faut un débat citoyen sur ces sujets. On a raté ce qu'on appelle la démocratie sanitaire, c'est-à-dire de un peu donner l'opinion aux gens avant de leur annoncer des mesures depuis le début.
Le débat, il est dans la rue tous les samedis.
Non, je ne parle pas de ce débat-là.
Sur toutes les chaînes de télévision.
On
débat sans cesse.
On débat sans cesse en France. D'accord.
Vous
savez qu'une convention citoyenne, c'est un peu différent. Oui. Celle qu'avait organisée Alain Fischer, justement, pour les 11 vaccins chez l'enfant, elle a permis de préparer le terrain. Plus personne n'a râlé contre les 11 vaccins obligatoires. Donc, c'est quelque chose d'organisé. Je ne suis pas spécialiste des conventions citoyennes, mais c'est quelque chose où tous les courants peuvent s'exprimer, et les parents d'élèves, les syndicats, etc. Sur la question de la vaccination des petits, sur la question de l'obligation vaccinale, éventuellement, du corps enseignant. Mais tout ça, ça doit être discuté.
Je sais que vous avez défendu la vaccination obligatoire. Aucun pays au monde ne l'a imposé, la vaccination.
Non, mais je pense que si la situation perdure comme ça,
on y viendra.
Si des situations comme les Antilles se reproduisent, une pandémie hors de contrôle, avec des comorbidités plus importantes qu'en métropole et une vaccination très insuffisante, parce que on dit il faut que les Antilles se vaccinent, évidemment qu'ils le fassent, mais ça c'est pour préparer l'avenir. Là, il y a le présent à gérer, et comme vous le traitez assez souvent sur votre chaîne, c'est extrêmement compliqué pour la Guadeloupe et la Martinique, et aussi pour la Polynésie.
Alors, vous dites aussi autre chose, Gilles Pialou, vous dites les tests PCR non remboursés, c'est une erreur.
Je suis un peu le seul à dire ça.
Oui, j'étais assez surpris. Expliquez-vous.
Mais parce que c'est cohérent avec ce que je dis de la prévention combinée. C'est-à-dire que c'est comme je le répète, c'est comme la sécurité routière. C'est l'airbag, plus les limitations de vitesse, plus les contrôles d'alcoolémie, plus la ceinture de sécurité. Et ben là, on est avec un variant tellement contagieux qu'on a besoin des mesures barrières. On a besoin d'un taux de vaccination qui est très élevé, immunité collective ou pas, qu'importe le sujet. Et on a besoin des thérapeutiques qui seront aussi un outil de prévention. Et du dépistage. On a lâché le dépistage. Et si on dérembourse, ce que je comprends sur le plan, parce qu'on peut pas non plus raser gratis éternellement.
Vous voyez devant les pharmacies. Non. Vous voyez les queues.
Je suis allé en Espagne, j'ai payé.
Le pass sanitaire.
Je le comprends économiquement.
Vous critiquez le pass sanitaire d'ailleurs aussi. Hein.
Non, je critique pas le pass sanitaire. Je critique le fait que dans son application, il est complexe. Mais je critique aussi les fake news sur le pass sanitaire. Aucun malade, alors je peux vous dire dans mon service, aucun malade ne sera limité de l'accès aux soins, aucun malade, et dans mon hôpital pareil, et dans le groupe hospitalier c'est pareil, ne sera limité de son accès aux soins par le pass sanitaire. Donc ça c'est du fake news de dire que les gens ne vont pas accéder. J'ai entendu ça à l'Assemblée nationale, c'est hallucinant de dire des choses comme ça. Il est compliqué l'application.
Oui, quand on a besoin d'être soigné, on est soigné. Quoi.
Mais l'efficacité du pass sanitaire, on le voit. On voit bien que le pass sanitaire a tracté la vaccination.
Mais oui.
Donc c'est en ce sens une réussite.
Oui.
Après, c'est un outil imparfait. Mais
les tests, tout le monde.
Je le répète, c'est un outil
pour
éviter
d'être vacciné. Ça existe encore.
Oui,
mais c'est bien.
Mais vous savez très bien que un certain nombre de gens se font dépister régulièrement.
Oui.
Parce qu'ils ne sont pas encore dans une décision vaccinale, ce qu'il faut aussi respecter.
Oui, bien sûr.
Voilà.
Bien sûr.
Et évidemment, qui va pouvoir le faire? C'est évidemment les classes sociales favorisées. Qui va être pénalisé? Les classes sociales défavorisées, qui sont déjà les moins vaccinées, les plus contaminées. Donc vous voyez, c'est sur cet aspect-là, c'est le côté, le virus est clivant socialement, la vaccination est clivante socialement, on l'a très bien montré, et on sait très bien par exemple qu'à Marseille, c'est moins vacciné dans les quartiers nord que dans le reste.
Donc ne plus rembourser est une erreur.
Sur cet aspect-là, oui. C'est un pari, c'est que les gens vont arrêter de faire des PCR pour aller se faire vacciner. Bon, on verra si ça fonctionne, tant mieux.
Si ça fonctionne ou pas. À propos de vaccins, Pfizer vient de vendre, je ne sais pas si vous avez vu ça, 100 millions de doses à 10 dollars. La dose au Brésil, 10 dollars, c'est pas cher, hein. C'est trois fois moins cher que le prix pratiqué, par exemple, avec l'Union européenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Pfizer va facturer plus aux pays riches et moins aux pays plus pauvres. Voilà une bonne initiative, non?
Toute initiative qui favorise le vaccin de la moitié de la planète qui est pas vaccinée est une bonne chose. Mais vous avez bien compris que c'est pas Pfizer de décider ça. C'est un vrai sujet, la vaccination universelle. C'est un vrai sujet. Sur les réseaux sociaux, on peut mettre sa tête dans une vaccination globale, comme on l'avait fait pour la lutte contre le sida. Il faut évidemment pas laisser cette dichotomie entre le nord et le sud et les pays vaccinés et les pays qui ont vacciné. 165 pays ont moins de 10% de leur population qui a eu une dose. Ouais. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Ça emmène tout le monde à l'humilité et un petit peu à une solidarité internationale. Et c'est pour ça que je me suis un peu agacé quand on parlait de la troisième dose, parce que c'est quand même une discussion de pays riches.
Oui. De pays riches, de pays nantis et de pays gâtés, si je puis dire. Bon, Gilles Pialoux, sur les médicaments. Donc, des médicaments arrivent. Est-ce qu'on aura un jour l'équivalent du vaccin en médicaments?
Là aussi, il faut pas penser que les choses vont se remplacer. C'est-à-dire que le traitement va pas remplacer le vaccin.
Expliquez-nous.
On le sait notamment pour. Il y a un traitement de l'hépatite B, il y a un vaccin contre l'hépatite B pour prendre cet exemple-là. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a eu plusieurs annonces à la fois de l'Agence européenne sur les anticorps monoclonaux. Il y a la Haute Autorité de Santé qui a autorisé les deux anticorps monoclonaux qu'avait reçu Trump pour justement les immunodéprimants qui ont eu trois doses. Ça c'était le 6 août, qui ont eu trois doses.
Ronapreve, en
pré-exposition et post-exposition. En gros, si vous avez été sujet contact ou si vous allez vous exposer. Et puis surtout, il y a l'annonce de l'OMS qui a montré que dans leur grand essai mondial, la Solidarity, ils allaient tester trois molécules. Alors ça fera plaisir à certains, donc des molécules plutôt recyclées. Il y a un anti-paludéen, il y a un anti-cancéreux, en gros. Et puis il y a un médicament qui utilise anti-TNF-alpha, enfin bon, qu'importe, qui est un anticorps qui est utilisé dans la maladie de Crohn. Oui. Crohn, dans la spondylarthrite ankylosante.
Donc des médicaments connus, des traitements connus.
Connus, avec du recul. Oui. Il y en a qui sont génériqués. Donc on est dans un processus de aussi utiliser. Et puis je pense qu'il y a des nouvelles molécules qui vont sortir, car il y a des essais en cours. Donc oui, la thérapeutique a été un peu oubliée de ce débat, et c'est une très bonne chose qu'elle réapparaisse.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'ici la fin de l'année, nous pourrions avoir à notre disposition des traitements.
Alors je pense qu'il y aura des processus accélérés, mais la solidarité, c'est dans 56 pays, ça va mettre un peu de temps, il y a des centaines de 680 personnes.
Ce sont des traitements faciles à administrer ou...
Alors il y a de tout. Il y a des traitements. Là, la plupart sont en comprimé. Et puis, les anticorps monoclonaux, c'est assez compliqué. Ça sera jamais diffusé massivement. D'abord, c'est cher. Deuxièmement, ça nécessite d'être fait en milieu d'hôpitaux de jour. Il y a une surveillance après l'injection. Donc, on n'est pas dans une facilité.
Des
donc,
injections il manque régulières en plus.
Voilà, tous les quatre semaines dans le protocole. Mais c'est les bonnes nouvelles. C'est bien de commencer l'année avec des bonnes nouvelles, même si la rentrée scolaire nous inquiète beaucoup.
Bon, merci beaucoup, Gilles Pialoux. C'est passionnant comme d'habitude. Il est 8h54, RMC BFM TV.